J'aimerais parler sur le péché caché de David. Dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 1, il est écrit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et le fit dire à David « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave-toi les pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit « Uri n'est pas descendu dans sa maison ». David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, « Je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain. Je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il « « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? Qui a tué Abimélec, fils de Jérubéchet ? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin ? Et n'en est-il pas mort à Thébets ? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. » Voilà, c'est le récit de la chute de David. David qui est un homme qui reste paradoxal, avec à la fois de grandes envolées spirituelles, composées des psaumes magnifiques, que nous méditons encore aujourd'hui. Il était musicien, il était proche du Seigneur. La Bible déclare de David que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Donc une grande communion avec Dieu, mais aussi des failles importantes dans sa vie, notamment l'éducation de ses enfants, dont il n'avait pas fait de reproches et qu'il les laissait tout faire. Et on a vu avec Absalom cette révolte qui était là dans son cœur et qui s'est manifestée. On a vu les difficultés qu'il a rencontrées aussi dans sa relation avec Joab, le chef des armées, et ses frères qui se révoltaient constamment contre lui. Et puis ici, la Bible ne cache pas son péché qui a fait chuter David dans l'adultère. Donc il a connu à la fois des sommets avec Dieu, mais aussi les profondeurs du péché. Cela nous laisse trois leçons. La première leçon, c'est que nos succès avec Dieu ne sont pas une garantie contre la chute. David était un homme de victoire, il remportait des combats, il priait Dieu pour savoir comment avancer, mais cela ne l'a pas garanti de la chute. Ce qui signifie qu'il nous faut veiller et prier constamment. Deuxième leçon, c'est que le tentateur ne nous laissera jamais de répit jusqu'à notre dernier souffle, parce que son objectif, c'est de nous faire chuter. Lui, il ne s'arrête jamais, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Et troisième leçon, c'est qu'on ne peut rien cacher à Dieu, et quand on a péché, il faut le confesser. Ça a été la résistance de David à la confession. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est d'abord l'oisiveté qui est en fait la racine du problème de David, parce que tout commence avec l'oisiveté. C'était au temps où les rois allaient faire la guerre, on voit au verset 1, au verset 1, et il est précisé dans ce texte que c'était le temps où on devait aller faire la guerre. Mais David a estimé que sa présence n'était pas utile ou nécessaire sur le champ de bataille, donc il est resté à Jérusalem. Pourquoi n'est-il pas allé au combat avec les autres ? Très certainement que l'histoire aurait été différente si David n'était pas resté oisif, mais s'il s'était engagé dans le combat, et pour nous ça signifie le combat spirituel, la prière, l'intercession, être actif, servir, voilà ce que ça représente. Bien, s'il avait fait ce choix, il n'aurait jamais eu tous ces problèmes qu'il a connus. Mais finalement, une décision anodine, rester plutôt que partir, finalement, ce n'est pas si grave. En fait, c'est un petit manquement à ses obligations de chef militaire d'aller au combat. Mais on se rend compte que ce petit manquement a eu des conséquences désastreuses. Et on le voit pour d'autres situations, des petits manquements, des petites choses sur lesquelles on ne veille pas, vont prendre de plus en plus d'importance et générer une force et une puissance qui nous entraînent loin de Dieu. Donc le verset premier, déjà, nous laisse cet indice que la place de David était bien d'être au combat avec les autres et de ne pas rester seul à Jérusalem. Il est resté à Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire les fondements de la paix. Mais dans son cœur, il y a une agitation. Il ne trouve pas le sommeil. Et le soir, il se promène sur sa terrasse. Il s'ennuie. Voilà l'oisiveté. Il ne sait pas quoi faire. Il n'est pas au combat, donc il n'est pas actif. C'est le chrétien qui ne prie pas, c'est le chrétien qui ne sert pas, qui n'est pas engagé, qui n'est pas motivé par l'œuvre de Dieu. Il est là, oisif, il ne sait pas quoi faire. Donc il traîne. Il traîne sur son toit, il regarde à gauche, il regarde à droite, il traîne. Et quand on traîne, quand on est oisif, on traîne sur la télévision, on traîne sur Internet, les pensées vagabondent, Et on sait que quand on est oisif, en fait, naturellement, les choses vont du mauvais côté. Donc il aurait dû plutôt lire la loi, pour lui c'était la loi, se méditer sur la parole de Dieu, ça c'était bien occuper son temps. Il aurait pu composer un psaume, il aurait pu jouer de la musique, il aurait pu s'entretenir avec d'autres croyants, faire mille et une choses, mais non. Dans son choix de oisiveté, il a préféré aller traîner sur la terrasse. Et ça, ça nous parle de l'oisiveté et comment est-ce que nous utilisons notre temps. Parce que l'oisiveté, finalement, elle est propice au péché. Quand on ne canalise pas son temps, quand on ne s'éduque pas, en laissant nos yeux vagabonder, ben David a chuté. Alors c'est vrai que ça commence toujours petit parce que traîner sur la terrasse, c'est pas mauvais en soi finalement, il n'y a rien de mal, mais l'ennemi a utilisé cette faiblesse, on va dire cette oisiveté, il n'a pas occupé son temps, et l'ennemi a utilisé ce manque d'occupation pour pousser David dans le mal. Et quand vous êtes oisif, le diable n'est jamais loin pour vous pousser dans la mauvaise direction, vous tenter, vous orienter vers ce qui est mauvais. Ça, c'est le premier élément, et tout part de là. Et pour nous, c'est une leçon importante à tirer, que nous ne devons pas rester oisifs, mais utiliser notre temps d'une manière spirituelle et utile. Alors, on peut aussi avoir des temps de détente, des temps de toutes sortes, mais en même temps, nous cadrer pour ne pas déborder et ne pas céder à ce genre de tentation. Donc, ne pas rester là à traîner. Deuxième point, c'est maintenant la tentation. Et le diable est l'auteur de la tentation. Et David, en traînant donc sur la terrasse, oisif, il voit cette femme, Bathsheba. Il l'aperçoit de loin et il la trouve belle. Il est attiré par cette femme. Et c'est là que la tentation vient dans son cœur et se dire « Ah, j'aimerais bien connaître cette femme. » C'est là où il aurait dû tourner son regard ailleurs et fuir cette situation parce que il était déjà marié et cette femme en plus était mariée. Job 31, verset 1, dit ceci, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Donc, il y avait une décision à prendre de ne pas convoiter. Comme Jésus l'explique, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Il aurait dû faire ce pacte avec ses yeux parce qu'à ce moment-là, la victoire était encore possible puisque la tentation n'était pas encore le péché. Il aurait pu donc résister ou rejeter cette tentation. Mais comme il n'a pas agi comme il se doit, la convoitise a produit son fruit dans son cœur et cette convoitise a produit le péché, le désir de connaître cette femme. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 14. L'amorce commence avec la tentation. La tentation produit la convoitise et la convoitise produit le péché. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà, c'est une amorce. Donc, il y a déjà le fait de traîner, d'être oisif, le fait de regarder, de convoiter. Il y a une amorce qui est là, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort, on va dire la séparation d'avec Dieu. Il y a donc là un enchaînement qui part de cette convoitise, de ce désir qui aurait dû être réfréné parce que la tentation n'était pas, il n'était pas obligé qu'il tombe dans le péché, il aurait pu réagir différemment. Il y a un avertissement. Quand il prend des renseignements sur cette femme, au verset 3, il veut se renseigner sur qui elle est et on lui dit, attention, c'est la femme de Uri. Et ça, c'est quand même un signal pour lui dire « Attention, c'est la femme de Uri, elle est mariée, elle a un mari et même un roi, comme David, qui avait l'autorité suprême dans le pays, il n'était pas au-dessus de la loi de Dieu et il n'avait pas le droit d'aller vers une femme mariée. » Et il le savait parce que c'est écrit dans la loi et c'est formel, c'est que vous soyez tout en bas ou tout en haut, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y avait pas possibilité pour lui d'aller vers cette femme, même s'il était roi. Donc, en fait, c'était un avertissement du Seigneur pour lui dire non. Déjà, la convoitise était là, mais en plus, c'est une femme mariée, tu ne peux pas aller plus loin, il faut t'arrêter là, il faut te repentir. Eh bien, et c'est là où l'orgueil prend le dessus, et David s'est senti au-dessus de la loi, c'est-à-dire il s'est dit, il y a la loi pour le peuple, mais je vais passer par-dessus. Et là, il se sent fort, il se sent au-dessus de la loi de Dieu, et il est allé vers cette femme. Donc, on arrive au troisième point, qui est maintenant le péché. Le péché commence dans le cœur. C'est là qu'il faut se repentir et demander pardon et revenir à Dieu de toute mauvaise pensée. Mais comme le péché a été enfanté, maintenant ça va le rendre esclave. Jean 8, 34, Jésus dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Comment David est-il tombé dans un péché aussi grossier que l'adultère ? C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave ce qu'il a fait. C'est grossier, c'est énorme. Un chrétien, un croyant, évidemment, pour lui, on va dire un croyant qui tombe dans un péché aussi énorme, eh bien, il n'a pas combattu ses mauvaises pensées. Il était orgueilleux au point de se croire au-dessus des autres. Il avait des succès. Il avait sa communion avec Dieu. Il avait une position royale. Il avait beaucoup d'atouts. Eh bien, tout cela, en fait, quand les choses vont bien, c'est aussi, ça peut être une occasion de chute. C'est-à-dire que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et quand on a beaucoup de succès, de victoires, même spirituelles, on n'est pas à l'abri d'une chute. Donc, il a vu tout le côté agréable du péché et il a oublié les commandements de Dieu. Pourtant, il les connaît. Alors, c'est un avertissement pour chacun de nous à veiller sur notre âme, à veiller sur nos yeux, à veiller sur nos pensées, sur ce que nous entretenons, parce que le péché, c'est un combat au quotidien. Hébreux 12, 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Il va falloir lutter contre le péché, ce que David n'a pas fait, puisqu'il a laissé le péché dominer dans sa vie. Et on arrive au quatrième point, c'est maintenant l'aveuglement de David. La suite du récit est une tentative laborieuse de David de cacher sa faute. Une fois qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, il fait venir Uri, c'est-à-dire le mari de Bathsheba. Il va tenter de cacher la situation. On voit qu'il est complètement aveuglé, dominé par le péché. Au verset 8, il va lui donner l'ordre. « Descends dans ta maison, lave tes pieds. » Et il espérait bien que Uri ainsi allait aller vers sa femme. Et comme ça, ni vu ni connu, vu qu'elle était enceinte, eh bien, tout le monde croira que cet enfant, c'est l'enfant de Uri. Donc, il voulait cacher sa faute. Le problème qu'il n'avait pas imaginé, c'est que Uri a refusé d'aller dans sa maison. Il a préféré rester avec les soldats, puisqu'il était en mission et il n'était pas en permission. Et il a refusé la proposition du roi. C'est là où on voit l'intégrité d'Uri, parce qu'il a l'autorisation du roi, mais il s'interdit lui-même cette autorisation parce qu'il se sent solidaire des autres soldats. Et là, on voit quand même qu'il a une certaine morale élevée, plus élevée même que David. Pourtant, il est Héthien, d'origine donc païenne, descendant des Cananéens. Et David est du peuple de Dieu, eh bien, c'est le païen qui a une morale plus élevée. Alors, certainement que cet homme d'origine païenne s'est tourné vers Dieu. et qu'il suivait les commandements de Dieu. Mais néanmoins, David était là pour donner un exemple. Et c'est l'inverse ici. C'est celui qui était d'origine païenne qui donne l'exemple d'intégrité. Il va ensuite tenter d'enivrer Uri au verset 13 pour se dire, puisque je n'ai pas réussi à envoyer Uri vers sa femme, je vais tenter de le faire boire, comme ça, quand il sera saoul, il va aller vers sa femme. On voit qu'il cherche des solutions pour cacher sa faute. Il n'y a pas de limite au péché. Le péché corrompt même nos raisonnements, 1 Timothée 4:2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque du péché dans leur propre conscience. C'est-à-dire que quand on est lié dans le péché, on perd la conscience des choses et on pousse même un homme au mal, comme Uri. Et puis arrive la décision, puisqu'il n'arrive pas à amener Uri vers sa femme, eh bien, au verset 15, il conçoit le projet de tuer Uri, quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est là où on voit que quand on est dans le péché, nos idées, notre imagination est dirigée par le malin directement pour nous pousser à faire des choses graves. Ce n'est pas une idée normale, ce n'est pas naturel. David est inspiré par le malin. Il va donc faire le plan de la mort d'un innocent. Et Uri va porter lui-même à Joab, dans un document scellé, sa propre condamnation à mort, sans le savoir. David est vraiment dans la spirale du mal. Un cinquième point, c'est que David a tout fait pour cacher son péché et apparemment ça a fonctionné puisque Uri est mort. Donc, on pourrait dire que David est soulagé. Uri a été tué dans le combat comme c'était prévu. David encourage Joab et finalement, il recueille Bathsheba chez lui. Il l'épouse. On pourrait dire que tout est rétabli. En tout cas, aux yeux des hommes, il n'y a rien qui peut se voir. La situation est normalisée. Mais au niveau de la conscience, le péché a fait son œuvre et David ne s'est toujours pas repenti. Sa confiance est donc diminuée. Et il y a une chose surtout que David n'a pas appréhendée, c'est au verset 27. C'est que Dieu voit tout et il entend tout et il n'approuve pas. Le verset 27 dit ceci, « Quand le deuil fut passé, David envoya chercher donc Bathsheba, la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Et là, on voit que Dieu n'approuve pas cette situation. Il a laissé David libre et responsable, mais le péché ne sera pas impuni. Il y aura une sanction, il y aura une décision. On peut tromper les hommes un certain temps, mais Dieu voit tout, il entend tout et il réglera les comptes de chacun. Donc cette histoire ressortira dans la suite de la vie de David. Si bien que David pensait que c'était terminé, mais non, aux yeux de Dieu, ce n'était pas terminé. Et Dieu va envoyer le prophète Nathan pour reprendre son serviteur et dévoiler son péché. Sans repentance, il n'y avait pas possibilité pour David de retour à Dieu. Et pour l'instant, il résiste à la repentance. De tout temps, des croyants ont voulu cacher leur péché à Dieu par toutes sortes de moyens. Adam et Ève, les premiers, qui se sont cachés loin de la face de l'Éternel, ils se sont fait des vêtements de feuilles de figuier. Quand Achan a dérobé des vêtements et de l'or lors de la conquête de Jéricho, il a caché ses vêtements sous sa tente, dans sa tente. Il a caché son péché, mais Dieu l'a dévoilé. Quand Géasi, serviteur d'Élisée, a trompé Naaman en mentant, en lui prenant de l'argent et des vêtements, il les a cachés chez lui, mais Dieu a dévoilé son péché. Quand Ananias et Saphira ont menti à l'apôtre Pierre sur le prix d'un champ, le péché a été dévoilé et ils ont été sanctionnés. Tous ont échoué parce que la Bible dit « le salaire du péché c'est la mort. Même si pendant un temps, ils ont profité du péché par des biens matériels, par des avantages, finalement, le péché se retourne toujours contre nous et nous et produit la mort spirituelle. Et la seule solution que David a trouvée, et il nous montre le chemin, c'est suite à cette rencontre avec Nathan qui a dévoilé son péché. Il a reconnu son péché et il a écrit le psaume 51 qui est un psaume de repentance pour nous enseigner comment revenir à Dieu quand on a péché. David a péché contre 5 des 10 commandements. Le 10e commandement, tu ne convoiteras point en convoitant Bathsheba. Tu ne déroberas point en volant la femme de son prochain. Tu ne commettras point l'adultère en commettant l'adultère avec Bathsheba. Tu ne tueras point en mettant à mort Uri qui était innocent. Et tu ne porteras pas de faux témoignages en cachant et en camouflant la vérité. Par la suite, David a changé. Il a dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est là qu'il y a eu le tournant dans le psaume 51. Mais l'histoire de David reste pour nous un avertissement qu'un serviteur comme David, qui était proche du Seigneur, a pu chuter. Il avait lui-même écrit « Comment des héros sont-ils tombés ?» en parlant de Saül et Jonathan. Et lui-même est un héros qui est tombé. Parce que l'ennemi ne nous laissera jamais tranquilles jusqu'à notre dernier souffle et il tentera sans relâche, comme il l'a fait pour David, comme il a essayé pour Jésus à 3 reprises et qu'il est reparti. Et le texte dit qu'il attendait une occasion plus favorable. Ça veut dire que même avec Jésus, Satan a essayé de le... En tout cas, il l'a tenté. Mais même s'il a échoué 3 fois, il y avait toujours une autre occasion un jour qui allait revenir. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Il va essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les victoires sont remportées, gloire à Dieu. Mais il attendra un moment plus favorable, peut-être un moment de faiblesse, un moment de défaite, un moment où on est affligé, un moment où on a été blessé. Et il attend ce moment-là pour revenir. Ça veut dire, comme Jésus le dit, veillons et prions et ne tenons pas les victoires du passé comme un acquis, que nous serons toujours vainqueurs. Il y a nécessité constamment de veiller. Et si nous avons péché, eh bien nous avons un avocat, c'est Jésus, mais il faut se repentir. Si nous confessons nos péchés, dit la Bible, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais résister à la confession comme David l'a fait, eh bien l'a enfermé lui-même dans une position sans issue jusqu'à temps qu'il se repente. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, merci pour ces avertissements, pour Seigneur ta grâce qui est là quand nous confessons nos péchés. Mais nous voulons être vigilants, Seigneur, et ne pas rester oisifs, ne pas laisser vagabonder, traîner à gauche, à droite, sans but. Nous voulons être au contraire vigilants, canaliser notre temps, bien le cadrer pour, Seigneur, nous garder de ces tentations qui sont l'objet du malin qui veut toujours attirer les croyants dans toutes les mauvaises directions. Et nous te prions, Seigneur, pour que nous soyons vigilants, que nous soyons de ceux qui veillent, qui prient, qui ne laissent pas la place à l'adversaire pour nous entraîner dans ces chemins de travers, pour nous détourner du saint conseil de ta parole. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour que tu nous donnes cette bonne vision de ton œuvre, de ta volonté. Seigneur, nous voulons prier pour que tu nous gardes dans la tentation, pour que tu nous gardes dans le péché, pour ne pas aller comme David dans toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises décisions qu'il a prises et tout le mal qu'il a pu faire. Ô Seigneur, nous te prions de nous garder dans ta main puissante afin que ton nom soit glorifié. Oui, Jésus, nous savons que le malin rôde comme un lion rugissant, mais nous voulons nous tenir dans ta présence et protéger sous ton aile Nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous sommes bien en sécurité. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.